Classique 21, you rock.
Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, bienvenue à bord du cargo de Radio Caroline. En mai 1975, il y a 5 décennies donc, Marcel Gottlieb lançait son mythique magazine de bande dessinée Fluide Glacial, qui l'accompagnera d'une façon ou d'une autre jusqu'en 2002. Gottlieb, qui avait été révélé dans les années 60 par René Goscinny au sein de son journal Pilote, puis qui avait osé toutes les transgressions en créant l'Écho des Savanes en 1972. C'est donc Gottlieb que nous suivrons aujourd'hui, et si vous ne goûtez pas particulièrement la bande dessinée ou celle au pluriel qu'a publié notre ami, ne partez pas pour autant, car suivre cette aventure, c'est aussi respirer à plein poumon les vents changeants de différentes époques, mais aussi se glisser dans l'underground, écouter du rock et se faire électriser par moult provocations pour rire. De joyeuses et passionnantes archives en sus. Pour Fluide Glacial, on peut dire que tout a commencé avec Pilote, magazine créé à la fin des années 50 par René Goscinny. Avant cela, Goscinny avait passé 7 ans à New York pour y apprendre le métier de scénariste aux côtés de Harvey Kurtzman, futur créateur de Mad Magazine. New York où, par parenthèse, il rencontrera le Belge Maurice, créateur de Lucky Luke. Débarqué en Europe, Goscinny collabore avec les éditions Dupuis qui ouvrent les pages de leur hebdomadaire Moustique aux premières aventures de son petit Nicolas, dessiné bien sûr par Sampé. Et le 29 octobre 1959, René Goscinny lance donc ce Pilote, fort de son expérience américaine qu'il a initiée au dynamitage des codes, à la liberté de ton et au double niveau de lecture dans le but de toucher tous les âges, chose inédite dans la BD francophone à l'époque et qui fera bien sûr le succès d'Astérix, dont les albums seront pré-publiés dans Pilote. Et tout cela, à l'époque, je le disais, c'est une petite révolution, comme il le racontera plus tard.
Oui, vous savez, quand on est individualiste, qu'on a des idées, qu'on se bat pour les imposer, on est forcément révolutionnaire, puisqu'on fait des choses qui ne sont pas habituelles et qui vont à l'encontre des coutumes et de ce qui se fait déjà. Donc je pense que oui, j'ai fait une révolution dans ce métier. Mais je crois que l'essentiel de la révolution à la dont je peux être l'auteur dans ce métier avec Albert Uderzo, c'est le succès de notre Astérix. Parce qu'à partir de ce moment-là, les adultes notamment ont commencé à avouer lire la bande dessinée. Ils la lisaient déjà, mais ils l'ont avoué. C'est entré dans les mœurs. Les gens ont commencé vraiment à lire de la bande dessinée, à en parler pour une fois d'une façon qui n'était pas péjorative. Et ça a bénéficié à toute la profession et ça a donné un essor à ce moyen d'expression. C'est là la véritable révolution. Pour le reste, j'ai été conséquent avec moi-même, c'est-à-dire ce que j'avais. Je m'étais dit, si un jour je dirige un journal, il y a des choses que je ne ferai pas, il y a des choses que je ferai. Eh bien, j'ai tenu parole d'un bout à l'autre, ça, je vous l'assure. Et à partir de ce moment-là, oui, ça a été un peu révolutionnaire. Ce qui a été révolutionnaire, c'est d'avoir un professionnel à la tête de ces métiers. C'était très curieux, c'était très rare d'avoir un auteur qui dirige un journal. Ça n'existait pratiquement pas. Alors on se trouvait devant des gens qui ne comprenaient pas vos problèmes, qui ne pouvaient pas juger, qui ne pouvaient pas conseiller, qui étaient un peu perdus. Tandis que moi, je peux parler d'égal à égal avec mes collaborateurs. Ça aussi, c'était une petite révolution.
Et ces collaborateurs qui, de 1959 à 1989, feront de Pilote un magazine novateur, mêlant BD et rédactionnel, se nommeront, au fil du temps, Cabu, Fred, Lozier, Greg, Bretéché, Mandrika, Rezer, Pratt, Bilal, Tardy ou encore Druyer. La plupart des protagonistes de l'aventure Pilote sont devenus des acteurs historiques, les acteurs d'un phénomène social, dira Jean Giraud, alias Moebius, qui fera lui aussi partie de Pilote. Vous n'êtes pas des Violettes des Bois, mais des scénaristes, leur répétera si souvent Goscinny, réaffirmant cette notion si importante à ses yeux d'auteur. Cela dit, c'est en 1965, avec l'arrivée de Gottlieb, que Pilote affûtera son impertinence. Gottlieb, qui avait débuté quelques années plus tôt au sein d'un journal nommé Vaillant, dans lequel il avait fait naître le personnage de Guy Luron, avant de frapper à la porte de Pilote. Pilote, où Goscinny l'accueillera avec bienveillance, lui écrira très vite des scénarios qu'il est chargé de dessiner. Ce seront les légendaires Dingo Dossier, un genre nouveau qui se présente sous la forme de leçons pédagogiques pour mieux déconner. Les lecteurs adorent, mais Goscinny, débordé par Astérix, renoncera assez vite à cet exercice. Dès lors, Gottlieb sera bien forcé de se jeter à l'eau seul cette fois, avec sa tout aussi célèbre rubrique à braque, publiée entre 1968 et 1972. Comme l'écrit un exégèse, il se lâche, invente l'humour gottliebien, dépasse ses maîtres anglo-saxons, les cases éclatent, les cadres habituels sont utilisés comme éléments de jeu, les jeux de mots les plus délirants fusent, on change d'échelle. Dès lors, les ventes de Pilote grimpent en flèche, le magazine s'écoulant chaque mois à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Il faut dire que la BD française est alors en pleine révolution. Elle s'affranchit de la domination graphique et commerciale de deux écoles belges, celle en ligne claire du journal de Tintin et celle de Spirou, où foisonnent gags et personnages stars, les Schtroumpfs de Peyot, Lucky Luke de Maurice et bien sûr Gaston Lagaffe de Franquin, sans parler de Spirou. En 1973, dans le cadre d'une émission télé nommée Court-circuit, en plein dans cette ambiance post-68 où l'idéalisme n'est pas mort, mais a été douché par le retour à la réalité, une jeune fille, Christiane Favra, élève dans une école d'art graphique, rencontre ce fameux Gottlieb dont elle suit les aventures en bande dessinée dans Pilote. Vous entendrez d'ailleurs une brève allusion à la fameuse coccinelle de Gottlieb, personnage récurrent de ses rubriques à braque qui commente l'action en arrière-plan et prend systématiquement le contre-pied du récit. Une façon aussi pour Gottlieb de meubler un peu ses cases qui manquent parfois de décor. Mais tout d'abord, Christiane se présente.
Je m'appelle Christiane, j'ai 17 ans et demi. J'aime beaucoup lire. Je lis beaucoup de poèmes, en général des poèmes de Prévert, Verlaine ou Rimbaud. Surtout Prévert, c'est surtout un révolté. C'est ça qui me plaît. Je suis dans une école d'art graphique parce que j'aime le dessin. Je trouve que c'est une des meilleures formes d'expression dans le monde dans lequel on vit. Parler, c'est banal. Je ne sais pas si je veux vraiment être dessinatrice publicitaire. Je crois que c'est aussi une sorte d'exploitation des gens. Je serais prise dans l'engrenage. Et ça, il n'y a aucun métier qui permet de ne pas être pris dans cet engrenage. La société est une contrainte horrible. On est obligé, qu'on le veuille ou non, d'être dans la société et suivre le mouvement. Et ça, c'est tout le contraire de la liberté. Et c'est peut-être pour ça que j'aime la nature. Parce que la nature, elle fait ce qu'elle veut. Elle est libre. La mort, c'est toujours la nature. Et comme j'aime la nature, je n'ai pas peur de la mort. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je ressors toujours. La peur de la mort de la peur et enfin la vie. Qu'est-ce qui fait que tout ça un jour ça a été donné? Pourtant je ne crois pas en Dieu, mais mon Dieu à moi c'est la nature. C'est immense, c'est beau. J'aime beaucoup Gottlieb parce que j'ai l'impression qu'il ne fait pas partie du monde adulte. J'ai l'impression que même s'il est d'une autre génération, il est plus près des jeunes que d'autres adultes. On a l'impression qu'il est au-dessus du monde et qu'il observe avec un microscope. J'ai l'impression que Gottlieb, c'est deux personnages à la fois. C'est le personnage humoristique, poétique, qui dessine. Et de l'autre côté, il y a un homme qui vit dans un monde pourri. On se rend compte par ses bandes dessinées qu'il aime les gens. J'aime les gens, j'aime la vie. Alors je crois qu'on se retrouve un peu.
Bonjour Catherine.
Bonjour. Je m'appelle Christiane.
Christiane, pardon.
Oui, par moments j'ai l'impression que tu prends tes lecteurs pour des idiots, des coccinelles qui commandent toujours. Enfin, elle dit toujours des trucs qui tombent sous le sens souvent.
Ben oui, enfin, je peux pas prendre mes lecteurs pour des idiots parce que en réalité, je travaille pas pour les lecteurs, je travaille avant tout pour moi. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est. Faut que ça me convienne à moi. Enfin, c'est-à-dire, je travaille pour moi. C'est un coup de peau que ça plaise aussi aux lecteurs.
Court-circuit Gottlieb 6, première. Oh.
Mon trait est vulgaire, mais vulgaire au sens très large du terme. C'est-à-dire que, bon, quand un type fait une grimace, il la fait vraiment. Ou bien les mains, je dessine les ongles et toutes les phalanges, phalangines, phalangettes. Alors que, avant, il était de bon ton de dessiner une main plus élégante, de supprimer toutes ces rides et tout. Justement, ces rides qui, peut-être, ajoutent une notion de vulgarité, mais qui, en même temps, donnent de l'expression.
Au cours de cette rencontre, en 1973, entre Gottlieb et la, par ailleurs ravissante, autant que pétillante, Christiane, la conversation va prendre une tournure différente et quitter la création pour se replonger dans la dure et triste réalité.
Qu'est-ce que tu penses de la société actuelle ?
Ah, c'est difficile. J'aime pas beaucoup ce genre de questions parce que si je dis je m'y sens mal, on va tout de suite dire alors que doivent penser les pauvres malheureux qui vivent dans les bidonvilles ou bien les gens qui ne mangent pas à leur faim et tout, et à juste titre. Si je dis je m'y sens bien, les gens qui diront ce salaud, ils pensent pas, ils s'en foutent pas mal de tous les gens qui sont dans les bidonvilles, etc., etc. Et toi, tu te sens bien, toi, dans cette société ?
Pas du tout.
Pourquoi ?
Parce que c'est... Je trouve que c'est... C'est horrible, j'ai l'impression d'étouffer.
Non ?
C'est... Tout est fait, il y a des... J'ai l'impression de me cogner à des murs.
Oui, alors pour lutter contre ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il y a deux solutions. Il y a la solution par la politique et le militantisme qui aboutit à la révolution. Ou bien alors, il y a la solution individuelle qui consiste à, en partant de ce qui existe, d'essayer de s'en sortir et de se démerder.
On ne peut pas s'en sortir.
Je ne sais pas, ça, on verra quand on en sera sorti ou on verra quand on sera au bout.
T'en sortiras jamais. Bon. T'en sortiras pour un moment, mais pas définitivement.
Ouais, ça se peut. Possible.
Ça se peut pas, c'est sûr.
C'était bien pessimiste.
Ah ouais, je suis pessimiste. Mais.
Ça me fait plaisir de rencontrer quelqu'un de plus pessimiste que moi.
Et la jeunesse, comment tu la vois ?
Les gars et les filles maintenant font des trucs que nous on sait pas à cette époque-là. Entreprennent des choses, discutent de choses, abordent des problèmes qui, pour nous, étaient vraiment des trucs dont on se foutait éperdument. Et ça nous retombe sur le nez après coup, finalement. Et ces problèmes-là, c'est bien de les aborder le plus tôt possible.
Oui, c'est dommage que les jeunes soient au courant de tous les problèmes, parce que ça leur retire leurs illusions et au bout de... Enfin, avant d'être vraiment adultes, ils n'ont plus du tout d'illusions. Puis ils vivent dans le monde réel, ils n'ont plus aucun moyen de s'échapper.
Mais je trouve, moi, que c'est bien mieux comme ça. Parce que justement, ce principe des illusions, c'est un espèce de mythe, c'est un espèce de truc bidon. Et que, comment dire... ça ne sert qu'à masquer des choses qui, en réalité, ne doivent pas être masquées. Le plaisir de vivre ou le bonheur de vivre ne doit pas résider dans des illusions. Il doit être dans les réalités.
Dans le dernier extrait que je souhaitais vous faire entendre de cette rencontre détendue, éclairante et rafraîchissante entre le dessinateur et l'une de ses lectrices, vont être abordés deux thèmes qui ne tarderont pas à ressurgir d'une manière ou d'une autre, positive ou négative, dans le parcours de Gottlieb.
Tu as fait une bande dessinée sur la publicité, une bande dessinée de critique. Et je voudrais savoir si tu penses vraiment ça ou si t'es exagéré.
Tu parles sûrement de cette bande dessinée où j'arrêtais pas de dire que la publicité était quelque chose d'ignoble, d'infect, d'aliénation, ouais. Bourrage de crâne. Et j'en profitais honteusement pendant toute la page pour faire de la publicité pour mon album de la rubrique Avrac, deuxième volume. Et ben, ouais, ben ça résume en gros. C'est-à-dire que l'ensemble de ces deux choses-là résume en gros ce que je pense de la publicité, c'est-à-dire que c'est effectivement
La publicité, c'est ça, enfin, c'est du bourrage de crâne. Mais d'un autre côté, si on accepte au départ de fonctionner dans un ensemble de systèmes donnés, ça devient difficile de refuser un élément de ce système. En l'occurrence, si j'ai accepté, par exemple, qu'un éditeur publie un album à moi, je ne peux pas après venir lui dire « ne faites pas de publicité pour mon album, parce que vous allez bourrer le crâne à des gens, vous allez les aliéner, etc. etc. »
Et qu'est-ce que tu penses de ces journaux qui exploitent le sexe, enfin, tout ce qu'il y a de porno
Les journaux de bande dessinée.
Oui.
Ah, pff. Alors là, je répondrai qu'en présence de mon avocat.
Radio Caroline avec Olivier Monsens.
Alors qu'il travaille toujours pour Pilote, Gottlieb entame dès 1971 une collaboration avec le mensuel Rock et Folk, pour lequel il dessine Hamster Jovial, un chef scout plein de grands principes et de bonne humeur niaise, qui dirige une mini-troupe composée de deux garçons et d'une fille qu'il tente d'initier à la pop et au rock, alors que ses ouailles ne s'intéressent qu'au sexe. En gros, la fillette, se révélant par ailleurs féministe, n'hésitant pas à claquer ses compagnons au sol, au sens premier du terme. Rock et Folk, à qui Gottlieb fournira aussi plus tard quelques fameuses couvertures. Toujours à propos de musique, avec deux autres passionnés de Beatles et de Frank Zappa, le journaliste Alain Dister et le dessinateur Jean Solé, Gottlieb participera à la série Pop et Rock et Collégramme, qui mettra en image les traductions françaises, parfois très aléatoires, de grands morceaux de rock anglo-saxon signés, outre les Beatles et Frank Zappa, par Pink Floyd, Genesis, Roxy Music, Magma ou encore Patti Smith. Des planches qui seront publiées plus tard dans Fluide Glacial. Mais n'allons pas trop vite. En 1972, Gottlieb et quelques autres collaborateurs de Pilote cherchent à réorienter la bande dessinée, en tout cas la leur, vers quelque chose de plus adulte, de plus transgressif. Car si Goscinny leur offre beaucoup de liberté, il y a quand même des choses qui ne passent pas. Le boss refuse tout ce qui s'aventure trop ardemment dans la sexualité et la scatologie. Et le jour où le dessinateur Nikita Mandrika se voit refuser une planche trop osée de son fameux concombre masqué, eh bien Mandrika propose à Marcel Gottlieb et à Claire Bretéché de créer leur propre journal. Ce qu'ils vont faire, lançant en mai 1972 un trimestriel titré « L'écho des savanes », dont la couverture comprend la mention « réservée aux adultes » accompagnée de leurs parents. « L'écho des savanes » où l'on, et Gottlieb en particulier, s'épanouira joyeusement dans le cul, la scatologie, le blasphème, le gore et la psychanalyse, sans autre intention que le plaisir, le défoulement, la libération, et en détournant au passage une belle part du lectorat de Pilote. Tiré au départ à 5000 exemplaires, le premier numéro se vendra à plus de 100 000. Une nouvelle BD est née, pour laquelle Gottlieb crée certains de ses personnages les plus audacieux, tels Momo le Morbac ou Wolfgang Amadeus Quincampoix, génial inventeur du papier cul. Sans oublier les séries Ra Lovely et Ra Gnagna, au travers desquelles il aborde l'inceste, le parricide, l'exorcisme et le sexe dépravé. Dans l'émission radio Rencontre, diffusée sur la première en 1982, Marcel Gottlieb éclaire ses points sensibles à Daniel Stevens, qui est allé le rencontrer chez lui dans la région parisienne.
Centre de production du Hainaut, premier programme. Rencontre, une émission de Michel Cédric et Daniel Stevens.
Alors entre les premiers dessins où déjà votre libido pouvait se voir de temps en temps, on pouvait la deviner. Mmh. Aujourd'hui, elle s'est franchement affirmée, cette libido.
Oui, c'est même le stade est même carrément dépassé. C'était surtout, vous faites sûrement allusion à l'écho des savanes.
Oui, entre autres, j'avais oublié.
Ça a été la grande explosion, oui. Puis après ça s'est calmé, parce qu'une explosion après, ça ne dure pas. C'est un coup. C'est événementiel, mais ça nous a permis de pouvoir englober dans notre outil, entre guillemets,
dans nos outils, en plus de l'éternelle brique qu'on reçoit sur la tête, ou de la bouche d'égout ouverte, ou du râteau qui rebondit, tout un tas d'éléments, de thèmes qu'on ne pouvait pas aborder avant. C'était outrancier,
le grand
volontairement, oui, sans raison valable, sinon celle de faire volontairement dans l'outrance, qu'elle soit pornographique ou scatologique, c'était le but. Seul et unique, c'était de faire ça. Mais en même temps, c'était un genre de manifeste.
Ouvrant grandes les vannes de son désir de transgression dans l'écho des savanes, Gottlieb publiera dans le numéro de janvier 1974 une histoire titrée God's Club, une sorte de bande dessinée pornographique mettant en scène, entre autres, Jésus, Allah, Jupiter et Hare Krishna. God's Club qui, à l'époque, c'est à noter, n'a suscité aucune réaction de haine ni procès. Commentant ce dessin pour Télérama en mars 2014, quelques mois avant les attentats contre Charlie Hebdo, Gottlieb dira « Ah, celui-là, j'envisage de le republier sous forme de grandes affiches. Non, je plaisante. Enfin, la triste réalité, c'est qu'on ne peut plus plaisanter avec ces choses-là. Ce serait impossible de montrer Allah ou Jésus en train de se branler. Il y a une époque où ça ne posait pas de problème. Vous n'aviez pas des types qui vous tombaient dessus au moindre accro que vous pouviez faire à leur religion. Là, dans cette bande dessinée, ils y sont tous. Allah, Jéhovah, Jupiter, Votan, Hare Krishna, etc. Ce qui m'amusait, là, c'était surtout de faire du porno. Attention, le porno ne m'avait jamais vraiment attiré avant la période de l'écho des savanes. De même après, ça ne me disait plus rien. Quand j'ai démarré Fluide Glacial, quelques années plus tard, on a vu débarquer une masse de jeunes dessinateurs qui mettaient des bites partout. J'avais beau leur dire « ça va, on en a fini avec tout ça », ils n'en démordaient pas. Moi, j'avais sûrement eu besoin de me défouler d'une façon ou d'une autre. Il y avait peut-être une jubilation à mélanger Dieu et sexe, oui. Mais tout ça, c'était un peu du remplissage. Le seul vrai gag de cette fameuse bande dessinée, God's Club, il est à la fin, quand le voisin téléphone et se plaint que les dieux font trop de bordel, qu'il faudrait insonoriser. Ça ramène tous ces personnages divins à une dimension banalement humaine. Dixit, donc, Gottlieb en 2014. Tout ceci, cela va sans dire, toute cette pornographie déplaisait au plus haut point à Goscinny, qui ne se privait pas de le faire savoir à Gottlieb. Car jusqu'en 1974, et parallèlement à l'écho des savanes, qui n'est encore que trimestriel, Gottlieb a poursuivi sa collaboration avec Pilote, jusque-là hebdomadaire, avant qu'il ne devienne mensuel, y publiant des planches, certes de plus en plus irrégulièrement. De même qu'il ne cessera d'éprouver admiration et affection pour Goscinny, qu'il avait accueilli, des lettres en témoignent, et une forme de nostalgie pour un journal dans lequel il avait passé, dira-t-il, ses meilleures années professionnelles. Il déclara encore, bien après, « Goscinny n'a jamais réalisé tout le bien qu'il nous a fait ». Il s'en rendait compte d'une façon superficielle quand il disait « Oui, c'est grâce à moi que ces petits cons sont ce qu'ils sont ». Mais intérieurement, il n'a jamais su, par exemple, que moi, je savais, je sais et je dis que je lui dois tout. Si Gottlieb s'amusera à dynamiter les tabous, il en est un qui lui résiste. Le 5 avril 1973, en couverture de Pilote, le journal qui s'amuse à réfléchir, c'est son slogan, qu'il fréquente encore parallèlement à l'écho des savanes, on trouve une caricature d'Hitler signée Morchoise, et ce titre, « Le fureur qui fait fureur ». Ce qui indigne Gottlieb. Il s'en expliquera à Nouma Sadoul lors de fameux entretiens. Alors là, j'ai carrément fait une dépression. Parler d'Hitler en faisant de l'esprit est pour moi inadmissible. Peut-être parce que j'ai des raisons personnelles de lui en vouloir. Enfant, Marcel avait porté l'étoile jaune et son père avait été tué à Buchenwald en février 45. Dans l'absolu, ajoute Gottlieb, le sujet a été traité de façon telle que le Führer apparaissait sous un joug anodin. Or, on ne fait pas de l'esprit sur Hitler, on l'écrase, par l'humour si l'on veut, mais on l'écrabouille. Écoute, on a souvent déconné dans Pilote sur la comédienne Alice Sapritch, qui fut à un moment la tête de turc du journal.
Avant, j'étais moche. Ma vie était un enfer.
Eh bien, poursuit Gottlieb, tu me croiras si tu veux, mais en lisant le spécial Hitler, j'ai eu la nette impression qu'on avait naguère été mille fois plus méchant avec Alice Sapritch qu'avec lui. C'est quand même un comble. Une dizaine d'années plus tard, à la suite de l'interdiction de l'album de Villemain et Gouriot intitulé « Hitler égale SS », Gottlieb se déclara contre la censure, en arguant qu'il faut pouvoir parler de tout, tout en nuançant sa position, en faisant remarquer qu'il aurait été plus délicat de la part des auteurs d'avoir tenu compte de la douleur ressentie par les personnes touchées par la Shoah à la lecture de leur bande dessinée. Mais revenons à l'écho des savanes créé en 1972 et que Gottlieb, en réalité, ne tardera pas à quitter, de même que Claire Bretéché, ce qui se fera en janvier 1975, Gottlieb n'ayant plus la même vision du canard que l'autre fondateur, Mandrika. Comme l'écrit un biographe, alors que le rêve de liberté né au printemps 1968 commence sérieusement à battre de l'aile, que les fortes têtes rentrent dans le rang, que l'époque se fait plus sérieuse et plus soucieuse, la crise du pétrole et la hausse du chômage aidant, que Giscard prend en main les destinées de la France et du grand capital réuni, Gottlieb poursuit et radicalise son émancipation de toute contrainte en lançant son propre journal comme un grand qu'il est devenu. Le premier numéro de Fluide Glacial, magazine d'humour sans H et de bande dessinée en un mot, lui aussi réservé aux adultes, sort le 1er mai 1975. Et pour ce qui est du titre, on est évidemment dans le potage, dans le registre farce et attrape, comme le confirmera plus tard Gottlieb.
C'est un liquide qu'on met sur le siège et puis ça donne des impressions de chaud et de brûlure et de gel et tout le monde hurle de rire. C'est comme le poil à gratter, on aurait pu l'appeler poil à gratter. On aurait pu l'appeler fausse crotte. Vomi en plastique.
Ancien de Charlie Mensuel, de Actuel et de L'Écho des Savanes, Yves Frémion sera, dès 1975 et pour de longues années, l'un des piliers de Fluide Glacial, où il signera notamment la Gazette de Frémion, 5 ou 6 pages d'articles divers et variés, enrichis par son goût prononcé pour les calembours, dont se moque gentiment le reste de la rédaction, mais que goûte particulièrement Gottlieb. Pour le blog Papier Nickelé, Yves Frémion décrit ce que cherchait à faire Gottlieb avec Fluide Glacial.
Alors, il y avait des choses qui s'étaient données comme contraintes dès le départ. Par exemple, il ne voulait pas qu'on parle d'actualité, de politique, parce qu'il y avait déjà des journaux qui faisaient ça. Il y avait le Canard Enchaîné. Bon. Mmh. Alors, il disait, non, on ne va pas faire ça. Nous, on va faire de l'humour pur, si vous voulez, c'est-à-dire de l'humour pour faire rire et qui fera peut-être rire encore dans 50 ans ou pas. On n'en sait rien, puisqu'on ne sait pas quel va être le destin de l'humour. Mmh. Mais donc, il voulait juste de la déconnade à fond, mais qui pouvait aller de l'humour noir à l'humour presque tragique. Par exemple, il a quand même publié des trucs comme les œuvres de Carlos Jiménez, Paracuellos. C'est un humour extrêmement grinçant. Mmh. On ne rit pas à lire Paracuellos, mais c'est de l'humour. Mmh. Et donc, oui, il adorait ça. Et en même temps, la grosse rigolade avec des gros gags type mec qui glisse sur la banane, et s'il était drôle, il le prenait, quoi. Voilà. T'es capable de tout. Et surtout, moi, ce que j'ai dit des fois, j'ai dû dire ça 10 ou 20 fois un peu partout, le génie de Gottlieb, c'est d'avoir réuni dans un même journal les 3 grandes tendances de l'humour, c'est-à-dire l'humour juif, puisque lui, il était juif, et surtout l'humour juif new-yorkais, puisque c'est à New York que ça s'est concentré, les Woody Allen, les Mel Brooks et tout ça. Et l'humour anglais extrêmement distancié, on ne doit surtout pas rire, on doit rire intérieurement, on reste très glacé comme ça, humour glacé sophistiqué comme on le disait en pilote. Et puis l'esprit français, avec justement tous ces jeux sur la langue. Et c'est vrai que quand je faisais des articles pour Fluide sur l'Oulipo, sur les trucs comme ça, il adorait aussi, quoi. Il comprenait toutes ces formes d'humour, et lui, il les mélangeait dans son œuvre, ce qui était... personne n'a fait ça avant lui, quoi. C'est ça, son grand génie, ça restera ça.
Pour créer Fluide Glacial, Marcel Gottlieb s'adjoint son ami d'enfance, Jacques Diamant, qui s'occupera de sa gestion. Et bien sûr, il recrute une équipe d'auteurs et dessinateurs qu'il chérit, parmi lesquels Binet et ses bidochons, Alexis, qui reprendra un temps Super Dupont, créé par Loeb et Gottlieb, avant que Solé et Gossens ne le reprennent à leur tour. Bien plus tard débarquera aussi Jean-Claude Tergal de Didier Tronchet et tant d'autres. Avec toujours pour ligne éditoriale, poilade, déconnade et, au départ, c'est à souligner, zéro publicité. Gottlieb aura aussi la grande chance d'y accueillir en octobre 1976 l'un de ses rares maîtres, André Franquin. À cette époque, racontera Gottlieb, beaucoup de journaux de ce type voyaient le jour. Bien entendu, Franquin était sollicité par tout le monde, mais chacun essuyait un refus poli et gêné. Alors moi, j'ai fait comme les autres, j'ai envoyé un petit scénario d'une page, et il l'a dessiné et même mis en couleur. J'ai donc eu la fierté de voir au bas d'une page de Fluide Glacial nos 2 signatures à coller, l'élève et son prof qui collaboraient. une planche titrée « Le banc public ». En décembre de la même année 1976, Franquin mettra en dessin un autre petit scénar de Gottlieb, « Le pétomane et le renard ». Enfin, en 1977, alors que l'aventure du trombone illustré, sorte de journal pirate et autonome agrafé dans Spirou et dans lequel Franquin a publié ses premières idées noires, est interrompue par le rédacteur en chef d'alors, Gottlieb appelle Franquin pour lui demander l'autorisation de republier ses idées noires dans Fluide glacial et si possible d'en avoir de nouvelles, comme il le raconte ici.
Mon seul rôle là-dedans, ça a été de lui demander avec un... avec beaucoup de véhémence, dis donc, tu vas pas arrêter cette merveille, moi je le veux pour Fluide. Donc, comme lui de son côté s'était impliqué dans le trombone et qui devait être écœuré de cet arrêt brutal, bon, bah, c'était pour lui une occasion. Et on se connaissait un peu, je crois qu'on s'appréciait, enfin moi oui, mais. Et il aimait bien que les jeunes fassent des trucs comme des journaux, des trucs comme ça. Alors, j'ai eu la chance soit de lui demander le premier, soit la chance qu'il aimait bien ce journal et qu'il a accepté d'y collaborer. Il a quand même collaboré 2 ans et demi. Tous les mois, on recevait régulièrement sa planche.
Vous retrouverez cet extrait dans la passionnante série de podcasts Franquin par Franquin, réalisé pour la RTBF par Fred Janin et Nicolas Van Doren, et toujours disponible sur toutes les plateformes. Pour info, Franquin poursuivra ses idées noires dans Fluide glacial jusqu'en 1983. Il y a une vingtaine d'années, dans le cadre de l'émission Al Dente, que j'ai eu le bonheur de mener de nombreuses saisons durant, diffusée sur BTV et qui se déroulait chaque semaine dans un restaurant différent, Gottlieb m'avait éclairé sur la difficulté d'être boss d'un journal qu'on a soi-même créé, Fluide glacial en l'occurrence.
Je me suis dit, si je fais un journal, là je serai le maître à bord et je pourrai avoir mon journal pour faire ce que je veux dedans. Tac! Grosse erreur, le doigt dans l'œil jusqu'au coude, parce que j'étais trop occupé par le choix des pages qu'on nous proposait, etc. Et donc, ça fait qu'au début, je collaborais beaucoup. Je faisais des histoires longues dans les premières années. Et petit à petit, ça s'est raccourci jusqu'à la dernière série qui était Pervers Pépère, et puis aussi la dernière histoire de Gailluron, Gailluron en slip, la bataille navale, et après ça s'est terminé, j'écrivais juste un édito.
Marcel Gottlieb cédera Fluide glacial en 1995 à Flammarion, continuant tout de même à écrire des éditos jusqu'en 2002. Après quoi, il relancera notamment Super Dupont avec différents dessinateurs. Toujours au cours de cet entretien à la table d'un restaurant, le Chou de Bruxelles, si ma mémoire est bonne, Gottlieb me confiera par ailleurs ceci.
Madame Bovary, c'était Flaubert et vice-versa. Mais alors vous, c'est qui? C'est Super Dupont? C'est Pervers Pépère? C'est Gailluron?
Ouais,
ou c'est Hamster Jovial?
Non, ça serait plutôt Gailluron. Parce que dès que je me suis mis à bien le posséder, bien le manipuler, le faire parler correctement, ça venait tout seul. J'étais pas obligé de chercher.
Et les traits de caractère que vous avez en commun, c'est quoi alors?
Ça peut être le contraire. Lui, il roupille, moi j'étais insomniaque.
Hyperactif, oui.
Lui, il est mou et tout. Et moi. Enfin, on était un
Donc c'est votre portrait en creux, en fait, c'est ça?
Voilà, ouais. C'est ça. Ouais. Portrait en creux.
Et vous êtes un peu pervers pépère aussi?
Quand même pas, non? Mais peut-être quand même un peu. D'abord, qui n'est pas au moins un peu pervers, mais dans le cas de Pervers Pépère, c'était plus un rigolo, un blagueur, un vieux blagueur un peu cochon.
L'avenir, on le voit enfin avec sérénité, bien que vous soyez un grand angoissé, ou toujours avec angoisse?
Toujours avec angoisse.
Ouais. Et qu'est-ce qui vous angoisse aujourd'hui?
La mort.
La mort?
C'est ce qui angoisse tous les humoristes. Et c'est ce qui fait fonctionner principalement l'humour avec un grand H. Même si c'est pas de l'humour noir, L'humour, c'est l'exorcisme de la peur de la mort, en fait.
Et quoi, là, elle se rapproche et vous vous dites, ça vous angoisse encore plus.
Mes valises.
Vers la fin de sa vie, ancien fumeur invétéré, Gottlieb se pointait au restaurant avec sa bonbonne d'oxygène, mais prônait encore et toujours la déconne, Lige, dans un hommage. Il mourra le 4 décembre 2016, à l'âge de 82 ans, au Vésinet, dans les Yvelines, après avoir été hospitalisé pour un accident vasculaire cérébral survenu quelques jours plus tôt. Mais, histoire de rehausser les cœurs et en guise de conclusion, je laisse la parole à la jeune Christiane, 17 ans et demi, qui était venue rencontrer Gottlieb en 1973 pour l'émission Court Circuit, dont on a déjà entendu quelques extraits.
Dans la vie, il n'y a qu'une chose d'absolument sûre, c'est la mort. Tout le reste, c'est aléatoire.
Qu'est-ce que tu penses de la mort ?
Bon, la mort, pour l'instant, j'en pense pas grand bien.
Je crois qu'il apporte une solution parce qu'il aide les jeunes à comprendre les adultes. Peut-être que grâce à lui, les jeunes s'apercevront que les adultes sont pas si idiots que ça.
Quand je lui ai demandé ce qu'il pensait de la société, il n'a pas vraiment répondu à la question. Mais je crois qu'en réfléchissant bien, on peut arriver à comprendre ce que c'est que cette société pour lui. Il ne l'a pas dit vraiment clairement, mais il l'a dit. C'est une société qu'il n'apprécie pas en elle-même, mais dans cette société, il a trouvé la façon d'être heureux. Alors, il s'en contente, il ne demande pas plus. Cette attitude peut paraître choquante, mais si Gottlieb est heureux comme ça, ben, il fait mal à personne. Et puis, il est heureux, tant mieux pour lui. C'est ça la liberté.
Le fait qu'il ait bien observé les habitudes des gens, ça vient de ce qu'il les aime. J'ai l'impression qu'il m'a dit je parle de choses que j'ai à cœur. Mais je me rends compte que les hommes, il les a à cœur. Il aime la vie, il aime les hommes, il aime. Il m'a dit j'aime tout ce qui vit. Je lui ai demandé qu'est-ce que la vie. J'aime tout ce qui vit.
Notre voyage aux côtés de Gottlieb se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir, faites-le connaître, partagez-le. Belle journée ou bonne nuit. Radio
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.